Salut les rigolos! Bienvenue à Angle Mort. Alors hier, je vais au cinéma voir Spider-Man Multiverse. Ça fait longtemps que j'ai fait critique de films. Je vais faire une petite intro des films que j'ai vus récemment. J'en ai vu beaucoup parce qu'il fait chaud, ça fait que je vais au cinéma souvent. J'ai vu Guardian of the Galaxy. D'ailleurs, un des bons surnoms que j'ai trouvé l'an passé, c'est Emily Cardin, qui travaille au Knicks, en l'air de chez nous. Elle est devenue Cardin of the Galaxy. Ça, c'est quand même très fort. Et puis, c'est très, 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 très bon. C'est le meilleur de toute la gang. J'ai vu hier, c'est un dessin animé, Spider-Man, blabla, le multiverse, là. Écoute, j'ai pas suivi ça. Ça a l'air que c'est le deuxième. Et puis, vers la fin, je comprenais plus rien. Mais moi, il faut que je vous fasse une confession. Puis ça, plusieurs de mes amis le savent, comme mon ami Billet ou Vard. Mon cerveau a énormément de misère avec les histoires de Matrix, puis de Lord of the Rings. Puis là, on a changé d'univers, puis je ne l'ai pas en tout, là, zéro, là, tu sais. Ceci étant dit, Spider-Man, le film, la réalisation est exceptionnelle. C'est un dessin animé, je le répète, mais tu sais, vraiment nouveau genre, très saccadé. C'est pas du tout fluide comme, Bambi, c'est pas La Belle et la Bête. C'est complètement autre chose. Hyper efficace. Rapidement, t'es plus dans un dessin animé. T'es carrément genre avec des acteurs, entre guillemets, là, tu sais. C'est vraiment bon. Sauf que c'est très dense. Il y a beaucoup de personnages. Colin, je trouve ça raide un peu. Bref, je vais voir ce film-là, puis je prends le métro parce qu'il pleut. Donc, je prends le métro Place des Arts, puis je fais deux petites stations. Et arrivé à Saint-Laurent, il y a un gars qui embarque, un malade, là, tu sais. Il s'assoit, puis là, il crie. J'ai jamais vu quelqu'un crier dans le métro. De même. Puis là, évidemment, ça indispose tout le monde, tu sais. Puis moi, ça me gaze énormément, là. Ça me gaze. C'est que je le fixe bien comme il faut, tu sais. Puis là, il me regarde, puis il continue à crier, « Ah, tu cas, telle affaire, tu sais. » À un moment donné, j'arrête de le regarder, mais je me dis, « Hey, toi, là, tu te mérites vraiment une petite sortie spectaculaire. » Puis, arrivé à Berry-UQAM, où moi, je débarque, évidemment, tout le monde autour de lui débarque, tu sais, puis ça me met vraiment comme en tabarnak, tu sais. C'est comme esti. Puis je dis rien. Puis là, il y a un autre genre de gazé qui parle. Je pense qu'ils se connaissent entre eux autres. Puis fait, prends tes pelleux. Puis là, la porte ferme. Puis je me sens vraiment cheap. Je fais, là, lui, là, il menaçait personne. Mais il criait, tu sais, vraiment enragé. Il faisait pas juste crier, je sais pas trop, là. Il criait comme un gars, là, vraiment, là, très, très au sommet d'être en crise, là, tu sais. Puis là, mais il y a des madames autour, puis tout. Tu sais, ça me met en esti. Ça fait que je sors, puis j'appelle la police. J'appelle pas le 911, c'est pas une urgence, tu sais. J'appelle, puis là, j'ai vraiment une conversation avec le gars en disant, là, je veux savoir, c'est quoi qu'il faut faire? Ça fait que je vous refile le message parce que personne n'est au courant. Puis quand je vois la STM qui dépense, je sais pas combien, ça doit coûter une fortune en publicité pour inciter les gens à reprendre le métro. Comme si le monde à Montréal, ça, il savait pas qu'il y a un métro. Hein? Mais il y a un train en dessous, tu me niaises. Tout le monde est au courant. Si le monde le prenne pas, c'est exactement à cause de ça. C'est exactement à cause de ça. Il s'agit juste... Moi, là, il y a le nombre de filles dans ma vie qui disent « Ben non, je prends pas le métro », comme si c'était une évidence. C'est épouvantable. Moi, je le prends pas full, mais je le prends quand même pas mal. Tu sais, c'est en bas de chez nous. Puis il y en a des patentes de même. J'en ai vu, là, à Berry-UQAM, là, une gang qui se piquait. Puis là, vas-tu lui? Mais c'est pas la norme. C'est pas vrai que c'est la norme. Ça arrive trop souvent. Mais c'est pas la norme, tu sais, en tout cas. Ça fait que j'appelle. Je parle à la police. Je dis, bon, bonjour, monsieur. J'ai dit, là, je vais vous dire. Je suis dans le métro, il y en a un qui crie, là, comme un damné, là, tout ça. Il a attaqué personne. Puis là, je me suis dit, bon. Ma question pour laquelle je vous appelle, c'est que je trouve ça épouvantable que je fasse rien. Je suis pas pour attendre qu'il frappe quelqu'un. Je trouve ça débile. Puis en même temps, si je commence à le pogner, puis je le garoche sur le quai, puis je le sors du métro. Ben là, quelqu'un peut me voir, appeler la police, puis porter plainte pour voie de fait, puis il va avoir raison. Dans la société où on vit, on n'est pas supposé, pour aucune raison, sauf légitime défense, de frapper qui que ce soit. Fait qu'il dit non, il dit vous avez raison, faut pas faire ça. Il dit faut appeler le 911. Je dis ouais, mais 911. Je dis le gars, il est peut-être à quatre rues dans son char. Il dit non. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il dit premièrement, il dit faut jamais les regarder. Ils cherchent juste ça, l'attention. C'est du monde qui ont, effectivement, l'autre, il a peut-être raison, il a pas pris ses pilules, il est fou, tu sais. C'est que ça en fait pas être dangereux pour autant, mais ça fait en sorte qu'il y a un sentiment de danger évident, là, tu sais. Puis ça, moi, c'est ça qui m'écœure. Ça fait que... Il dit d'abord, vous le regardez pas. Il dit, ce que vous pouvez faire, c'est sans le regarder, vous vous approchez. Comme ça, si tout à coup, il intervient auprès de quelqu'un, là, vous pouvez intervenir. Parce qu'effectivement, en droit... On a tous, même les gens l'ignorent, on a un devoir d'intervention. C'est jamais appliqué là, à la lettre, mais légalement, là, dans le Code civil, on a un devoir d'intervention. Donc, si lui, il avait frappé une bonne femme, ben je dois intervenir. Puis je peux intervenir avec les mêmes critères que la police, c'est-à-dire avec la force nécessaire. C'est que s'il faut que je le frappe, s'il faut que je le garoche dans le mur, pas grave. Mais là, ça, c'est s'il attaque. Puis dans un monde normal, on entend très rarement ces genres de fous-là qui attaquent qui que ce soit, là, tu sais, c'est juste qu'ils sont très épeurants. Fait que première affaire, il dit, tu le regardes pas, puis il dit, puis tu t'approches. Tu prends ton téléphone, tu fais semblant que tu parles à quelqu'un, mais il dit, ça, c'est l'autre affaire. T'appelles 911, et là, j'ai trouvé ça brillantissime, je le savais pas. T'appelles 911, tu décris la situation, puis nous autres, on peut faire arrêter le train puis envoyer des polices. Fait que ça veut dire que, puis c'est vrai, pense-y, c'est pas long. Le gars, le répartiteur au 911, il appelle probablement quelqu'un directement dans qui gère le trafic des métros. Ça peut prendre 30 secondes, d'après moi. Paf! Oui, il y a le train, telle affaire, qui est à Berry-UQAM, ligne verte, il y a quelqu'un, il faut envoyer le phare, arrêter le train. Les portes restent ouvertes, comme ça, si quelqu'un veut sortir, il sort. Puis là, whoop, il y a des agents qui arrivent. Fait que je vous refile l'info. Parce que j'ai dit au gars, j'ai dit, écoute, merci, c'est très éclairant. Effectivement, c'est pas à moi à commencer à le tabasser. Mais la réalité, c'est que je trouvais ça épouvantable de juste être là comme, j'attends de partir comme les autres. Non, je suis pas ce genre-là, tu sais. Fait que voilà. Donc le truc, c'est ça, c'est que tu le regardes jamais dans les yeux. T'appelles tout de suite 911, tu décris où que t'es, qu'est-ce qui se passe. Puis eux autres, ils font arrêter le métro, ils envoient des agents, ils gardent les portes ouvertes. Bravo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu la suite de quasiment le dossier que je vous ai fait concernant la France, là. Je vais vous faire part aussi d'un truc qui est très réel, c'est-à-dire la montée en puissance de la droite partout. Aux États-Unis, il y a des décisions qui ont été rendues par la Cour suprême, entre autres, exemple, ça a monté jusqu'en Cour suprême. Un pâtissier qui a dit « Moi, je veux avoir le droit de ne pas faire un gâteau de mariage à un couple gay. » C'est monté jusqu'en Cour suprême. Puis c'est basé sur l'idée de la liberté d'expression que les juges, à la majorité, ont dit « Oui, tu as le droit de ne pas servir des homosexuels. » Ce qui est quand même, au niveau du lien de causalité, c'est assez spécial. C'est-à-dire qu'on est en train de dire la logique de la liberté d'expression, c'est que je veux pas m'associer à ce mariage-là, je suis contre ça. C'est-à-dire que vous pouvez pas m'obliger à faire un gâteau. Ça fait qu'il y a comme un genre de lien qui n'existe pas en tout avec ceux qui fournissent les armes à ceux qui tirent dans des écoles dans le dos des enfants de 17 ans. Ça, c'est moins problématique, ça a l'air, en tout cas, bref. Mais mon point, c'est de dire que, je vous donne un exemple aussi, en Scandinavie, Danemark, Suède, toutes les politiques migratoires, à vrai dire, partout dans le monde, l'idée de l'immigration qui est une bénédiction, quelle grande richesse. Partout dans le monde, il y a un raffermissement de la question migratoire. Partout. C'est même en Afrique, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne par rapport, par exemple, à la Tunisie ou à la Turquie, où il y a des dirigeants politiques là-bas qui ont dit « Hey, là, nous autres, ça marche pas, là, on peut pas... » Ça fait que c'est pas une affaire de Afrique versus Europe, etc. Partout, quand tu t'intéresses le moindrement, la question migratoire est devenu littéralement problématique. Et quand je dis « est devenu problématique », c'est-à-dire dans l'espace public, dans l'espace médiatique, puis dans le débat politique. Donc, toute la crainte qu'il y avait de parler de ça, de toujours passer immédiatement pour un épouvantable raciste, ben là, ça a fait des petits partout. C'est que les pays comme la Hongrie, qui ont une politique migratoire hyper fermée, ou comme le Japon, et ça, c'est de tout temps, Le Japon, c'est une société qui est hyper homogène pour qui ça rentre au compte-gouttes, etc. Ben, c'est comme si eux autres, ironiquement, ils ont pas ces problèmes-là. J'avais vu une photo à un moment donné, ça m'avait fait tellement rire. Tu vois, parce que c'était dans le temps qu'il y avait eu les attentats, je pense, au Bataclan ou je sais pas trop. Puis ils montraient Belgique. Il y avait quatre photos. Il y en avait une, c'était Belgique-France. Puis c'était des photos de rues. T'sais, c'est des belles rues en Belgique et en France, avec plein de soldats avec leurs guns. Puis à côté, c'était Belfast, puis Prague, mettons. Puis le monde prenait tranquillement un café, etc. Pour montrer que, regarde, eux autres, ils ont eu une politique migratoire extrêmement sévère, tranquille dans les rues. Les autres, c'est les soldats qui sont dans les rues. T'sais. Puis encore là, est-ce que le lien est aussi évident que ça? J'en ai aucune idée. Ça demande une expertise qui n'est pas la mienne. C'est trop facile de tirer des conclusions. Mon point, c'est pas ça ce matin. Mon point, c'est de vous dire que la question de l'immigration est partout remise en question et que maintenant, ça, c'est comme si les voix qui disent « c'est terrible, c'est épouvantable » ont vraiment baissé d'influence. Ces voix-là, avant, faisaient en sorte que les politiciens, par exemple, parlaient d'immigration pendant leur campagne. Il y a une partie de la population qui faisait « oui, oui, on est d'accord ». Puis arrivé au pouvoir, ben là, ils étaient tout de suite stigmatisés par une partie des journaux, une partie de comme quoi c'était épouvantable, etc. Puis tu sentais que les politiques changeaient. En France, ça a été beaucoup ça qui a été observé, tu sais. Ça fait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe partout, t'as ce côté-là très à droite. Et ça m'amène à la théorie suivante. Je pense que... J'ai deux théories par rapport à ça. La première, c'est Christine Taubira, l'ancienne ministre de la Justice en France, qui avait dit « On ne peut pas avoir raison tout seul ». C'est une grande phrase. Tu ne peux pas avoir raison tout seul. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui vont adhérer à ton truc ont nécessairement raison. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es un politicien qui décide de mettre l'avant quelque chose qui n'a pas l'aval de la majorité, ben tu ne seras pas élu. Okay? Jusque-là, je n'apprends rien à personne. Mais ça ne veut pas dire que la majorité qui a élu celui qui dit le contraire, que ça paraît peut-être mal, mais que secrètement, quand tu mets un X, tu t'en fous que ça paraisse bien ou mal, tu votes selon tes intérêts. Ça ne veut pas dire qu'eux autres ont raison. En un mot, une politique migratoire plus sévère, ça ne veut pas, par définition, dire le peuple a raison. C'est pas vrai que le peuple a toujours raison. Il y a plein de fois où le monde sont dans le champ, que je suis dans le champ. Ça n'existe pas avoir toujours raison. C'est pas la loi du nombre qui font « Ah, il y a beaucoup de monde, donc tout à coup, c'est ça la vérité. » Ben non. Mais peu importe, c'est ça le point. C'est que tu es obligé, à un moment donné, d'avoir du monde qui adhère. C'est mon fameux MCAA que je parle en conférence, là. Message, compréhension, adhésion, action. L'adhésion, c'est le parent pauvre dans la communication. Les gens, des fois, comprennent pas que s'il n'y a pas d'adhésion, le message vaut rien. Fait que tu peux pas avoir raison tout seul. Fait que ce qui se passe, c'est que il y a eu des genres de politique migratoire, genre « oui, vive l'immigration, c'est fantastique », et à tort ou à raison, des gens associent ça à des troubles de sécurité. Mais pas juste dans tel quartier, là. Dans le monde. Il y a vraiment, là, tu sens vraiment... Donc, ça amène une droitisation de la politique. En Europe, c'est flagrant. L'Allemagne, les pays scandinaves, watch bien la France, c'est quasiment inévitable avec tout ce qui se passe. Puis le côté burlesque que la France insoumise répond. C'est sûr que Marine Le Pen... Mais d'ailleurs, il y a des sondages qui sortent déjà, puis Marine Le Pen en haut à côté. En haut à côté. Puis tout ce qui est Jean-Luc Mélenchon, là, en bas, 36 % versus 22. T'sais, c'est quasiment comme la CAQ Québec solidaire. Fait que tu fais comme, ben oui, c'est ça. Fait que tu peux pas avoir raison tout seul. T'es obligé d'avoir l'adhésion du plus grand nombre, même si le plus grand nombre n'a pas nécessairement raison. Fait que matière à réflexion pour tous ceux qui veulent passer leur message, parce que c'est ça. Ça fait que c'est pas surprenant ce qui se passe. C'est comme... Puis les gens de la gauche devraient se poser la question, parce que la gauche a un côté utopique, c'est-à-dire qu'elle regarde vers en avant, elle se dit « Mais semble dans un monde meilleur, ça serait de même. » Fine. Mais puis c'est mon sujet du dernier, quand je vous ai parlé de la France versus le réel. Si tu veux dire que le réel n'a pas lieu, mais c'est toute ta crédibilité qui tombe. Les gens s'en rendent compte. Ça fait que, voilà. Donc, c'était mon point pour aujourd'hui. Bravo à tous. Et puis, il va faire chaud en tabarouette. Est-ce que c'est un cas de vélo? Hey, je vais chez le chiro aujourd'hui, puis après ça, écoutez bien l'anecdote, vous allez être fiers de moi. La semaine passée, j'ai une couronne en or qui est tombée. On l'a remplacée par un plombage. C'est une couronne qui datait de longtemps. Elle était tombée à plusieurs reprises. On la recollait, mais là, elle était comme cassée. C'était comme ciao, bye. Quelques jours plus tard, je perds une autre couronne en or. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un mouthpiece. Hein, le soir, je gringe des dents. Ça fait que je grince des dents. Ça fait que j'ai une plaque occlusale, on dit en français. Puis ils me l'ont nettoyée au dentiste. Tu sais, ça fait vraiment une différence que moi avec ma brosse à dents. Puis là, j'ai fait, hey, ils ont toujours dit. C'est quand même incroyable. J'ai déjà vu souvent, on peut laver plein de choses dans le lave-vaisselle. Tu peux laver, mettons, ton casque de vélo. Plein d'affaires qui vont... C'est que je fais de crime, va mettre mon mouthpiece dans le lave-vaisselle. Ce qui est techniquement une excellente idée, parce qu'effectivement, il est sorti d'une propriété exceptionnelle, mais il a rapetissé, tu sais, le plastique, c'est chaud là-dedans. Fait que quand je l'ai mis le soir, c'était comme, coudon, ça rentre mal. Puis là, je l'ai mis sans peser dessus, sans forcer, mais évidemment, mes dents naturelles pendant que je dors, qui serrent, ils te l'ont rentré bien comme il faut. Fait que le lendemain matin, quand je l'ai enlevé, je fais, voyons, c'est bien serré, bang, mon autre couronne en or. C'est qu'il faut que je retourne une semaine plus tard. Bravo. Oui, bravo à tous et surtout à moi. Ciao.